Je ne vois pas du tout comme un grand événement parce que le document qui sera paraphé le 10 janvier, s'il l'est effectivement, ne présente rien de nouveau. C'est un accord d'abord qui est fragmenté puisqu'il n'y a pas un accord mais il y en a 6, chacun sur des points particuliers, sécurité, partage des richesses, etc. Et puis, en plus, cet accord est signé entre deux parties minoritaires. Le gouvernement actuel, qui représente le régime des frères musulmans soudanais, avait obtenu aux élections de 1986, quand c'était un simple parti, 7% des voix. Quant au SPLA, non seulement il ne représente que le Sud, mais il ne représente même pas tout le Sud, car ces dernières années, l'autorité du colonel Garang sur sa propre organisation est allée en s'affaiblissant. Donc nous avons là deux groupes minoritaires qui signent quelque chose ensemble, qui est lui-même un entassement d'ambiguïté et d'approximation. Je veux bien que tout cela aboutisse à une paix solide et durable, mais à première vue, ça ne semble pas être le cas.
Mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui va changer avec cet accord, par exemple au niveau des opérations militaires?
Il n'y a plus aucune opération militaire depuis plus de 2 ans. Donc ça ne va rien changer. La guerre est déjà terminée depuis longtemps. Mais par contre, ce qui n'est pas du tout terminé, c'est l'état de délabrement du Sud et d'intervention du gouvernement dans les affaires du Sud par le biais de diverses milices tribales, où malheureusement, il faut bien reconnaître que les Africains non-arabes, non-musulmans du Sud se prêtent lamentablement à la manipulation ethnique du gouvernement, en se battant les uns avec les autres pour Garang, contre Garang, pour leur propre compte, et ça ne fera que continuer dans le futur.
En fait, vous ne semblez pas très enthousiaste, hein, sur les retombées de cet accord.
Il y a de fortes chances qu'au contraire, ça déclenche de nouvelles insurrections. Il y a maintenant des combats de plus en plus fréquents au Kordofan, qui est la province entre le Darfour et la vallée du Nil. Il y a des fortes possibilités pour que d'autres mouvements insurrectionnels apparaissent dans l'est sur la frontière érythréenne parmi les tribus Bedja. Et il ne faut pas oublier que le Darfour s'est produit à cause de l'annonce des accords de paix. C'est-à-dire que les gens du Darfour, qui vivaient dans une situation de sous-développement économique, de négligence administrative et de violence sporadique depuis 20 ans, se sont dit, ben maintenant, Monsieur Garang a pris les armes, il s'est battu, on va signer quelque chose avec lui, il aura une part du gâteau, et nous n'aurons rien. Donc ils ont pris les armes et ils se sont dit, ben si Garang le fait, nous aussi on le fera. Et en dépit des souffrances épouvantables du Darfour, les gens dans les camps de réfugiés vous disent, si nous devons avoir 1 million de morts, c'est pas grave, nous aurons 1 million de morts. Les sudistes ont eu 1,5 million de morts, et bon voilà, peut-être il faut qu'on fasse pareil. Et d'autres raisonneront de la même manière demain.
Dans tout ça, est-ce que la communauté internationale a joué un rôle?
Elle a joué un rôle technique en évitant qu'il y ait trop de morts civiles au Darfour. Bon, je salue là le travail des ONG et du Programme alimentaire mondial et du HCR qui ont fait un boulot remarquable, courageux, difficile. Ils se font tirer dessus, ils n'ont pas de moyens suffisants et en plus, ils n'ont pas de soutien politique. C'est-à-dire que la communauté internationale s'est comportée d'une manière tellement méprisable et dégoûtante que, on a du mal à retenir sa nausée. Les politiques sont des lâches. Si on se rappelle ce qui s'est passé au Rwanda, on est encore en train de se gratter la tête pour se demander ce qui a bien pu arriver et comment on a pu laisser massacrer 800 000 personnes. La même chose se produit sous nos yeux et la même lâcheté se manifeste.